RMC, face aux grandes gueules.
Il s'agit de Fergan Azihari. Bonjour.
Bonjour.
Avec ce livre, L'Islam contre la modernité, aux éditions La Cité. C'est un livre grande gueule. Vous êtes issu d'une famille comorienne musulmane, et pourtant, vous osez écrire que la religion qui a été fondée par Mahomet est la principale cause des maux dont souffrent les pays musulmans et les musulmans eux-mêmes. Pourquoi ?
Ce livre part d'un état des lieux qui, je crois, est assez facile à partager. Et d'ailleurs, les musulmans ne m'ont pas attendu pour déplorer l'état lamentable de leur société, bien avant, d'ailleurs, l'expansion coloniale occidentale. Le fait est qu'aujourd'hui, le monde musulman est le terreau de beaucoup trop d'anomalies statistiques. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes tyranniques où la liberté et l'égalité relèvent par définition de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane aujourd'hui dans le monde. Le nom de démocratie en terre d'islam se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent ce monde musulman aujourd'hui, 3% d'entre eux seulement vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne mondiale.
C'est à cause de la religion ?
D'entre eux. Je pense que la religion a une bonne part de responsabilité. De même, la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à la condition féminine. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées dans les conflits armés. L'essentiel, le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé d'organisations musulmanes. De même, la contribution du monde musulman n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est un quart de la population mondiale. C'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues. Quand une ère culturelle et le terreau d'autant de dysfonctionnements, je crois qu'il est nécessaire d'instruire le procès du système de valeurs qui
alors
a produit autant de désastres.
En quoi, selon vous, c'est ce que vous écrivez dans le livre, et vous allez développer, en quoi la religion est vraiment provoque cela, provoque ce tableau noir que vous nous brossez?
Écoutez, quand vous avez une religion comme l'islam qui a bâti à partir du 8e siècle un système juridique fondé sur les paroles, faits, gestes et même silences approbateurs d'un personnage qui s'appelle Mahomet et que les traditions musulmanes elles-mêmes dépeignent comme un personnage qui s'adonne à l'égorgement, l'esclavage sexuel, qui n'hésite pas à assassiner ses opposants politiques, je ne suis pas certain qu'un tel système soit en mesure de faire éclore les sociétés les plus libres, les plus prospères, les plus harmonieuses. Et donc mon vœu le plus cher serait que les musulmans, si vous voulez, méditent ce paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues, c'est dans les sociétés non musulmanes que la condition des musulmans est la moins désagréable, et je pense qu'il faut aussi en tirer les bonnes conclusions.
Et la modernité n'est pas compatible avec l'islam, c'est ce que vous écrivez, parce qu'on peut imaginer que dans ces pays, via la modernité, le progrès, les choses ont évolué.
Les choses évoluent. Évidemment que le monde musulman n'est pas resté figé pendant 1400 ans. Il y a eu des évolutions. Je ne dis pas que ces sociétés sont figées. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ces sociétés sont très 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 en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. Et ceci alors même, je le rappelle, que l'islam est une religion qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est ça qui est quand même assez consternant. L'islam ne s'est pas emparé d'un désert putride qu'il aurait cultivé à partir de rien. Quand l'islam apparaît au 7e siècle, au beau milieu du Proche-Orient, les musulmans s'emparent de l'une des régions les plus foisonnantes, les plus créatives de l'Antiquité tardive. Les musulmans vont s'approprier la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui a inventé l'écriture, la littérature, la sédentarité, l'agriculture. Les musulmans vont s'emparer de la Perse, c'est-à-dire détruire le régime sassanide qui avait accueilli de nombreux éléments païens, chrétiens, nestoriens, particulièrement versés dans les sciences antiques. Les musulmans vont très tôt se familiariser avec la technique chinoise de la fabrication du papier, censée leur conférer un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Je rappelle que l'Europe ne s'est pas familiarisée avec cette technologie seulement à partir du 12e siècle seulement. Donc les musulmans ont bénéficié dès le début d'un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable, bien plus riche par exemple que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme. Et donc moi ça m'intéresserait de comprendre comment une religion qui partait avec un tel trésor a fini dans un état aussi lamentable. C'est cette trajectoire qu'il faut interroger.
Alors, question de ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire Bruno Poncet, Barbara Lefebvre et Charles Consigny.
Alors d'abord, je dois dire, je trouve que c'est un livre courageux, érudit, intelligent, mais surtout courageux, parce que dire les choses avec une telle crudité, bon, Moi, j'ai deux questions, trois questions peut-être. D'abord, ouais, ça sera, tu vois, mais rapide, déjà. Non mais rapide.
Ah bon,
rapide. D'abord,
j'ai
quand même.
Peur quand on dit rapide.
Quand même, que vous faites quand même fort peu de cas des musulmans qui se sont sécularisés de fait et vivent de manière tout à fait respectueuse des principes et des valeurs des régimes démocratiques, que ce soit en France ou ailleurs. À vous lire, on a l'impression quand même un petit peu que parce qu'ils seraient musulmans, ils sont pas complètement en phase avec les pays démocratiques, avec les démocraties. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce que l'islam devrait accomplir comme démarche? J'ai cru comprendre que vous en appeliez, mais est-ce que c'est crédible à une espèce d'apostasie généralisée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, j'ai oublié ma troisième question, mais bon, ça en fait déjà deux.
Tu vois, on savait que ça allait être trop long. Alors, déjà sur la première, sur les musulmans qui effectivement ont réussi aussi à se détacher de leur religion, en tout cas à faire en sorte qu'ils sont intégrés, assimilés et qu'il n'y a pas de problème.
Ah, mais vous avez raison qu'il faut sur le fait de dire qu'il ne faut absolument pas mettre tous les musulmans dans le même sac, et qu'il y a évidemment beaucoup de musulmans qui sont parvenus à se détacher de leur religion pour embrasser les codes des sociétés européennes.
Vous parlez de la religion, hein, vous dites.
Tout
pas
à fait,
les musulmans,
je parle de l'islam. Ouais. Mais cependant, sur le plan sociologique, on observe aussi malheureusement que dans les sociétés occidentales, les musulmans en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, il ne s'agit pas de les mettre tous dans le même panier, sont les plus perméables à des attitudes autoritaires. C'est aussi le constat sociologique qu'il faut faire. Plus d'un musulman sur deux en France considère que les femmes doivent obéir à leur mari, contre 5% de la population totale. Plus d'un musulman sur deux considère en France que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias, contre un cinquième de la population. Près de deux musulmans sur trois pensent que l'homosexualité est une abomination, une perversion, contre 15% des catholiques et 10% des incroyants. Donc je constate que même s'il ne faut pas nier les exemples et les musulmans intégrés qui existent, que malheureusement, les musulmans forment la catégorie sociologique la plus perméable à des attitudes autoritaires. Je pense qu'il faut aussi interroger cette anomalie sociologique.
Et ça, c'est à cause de leur religion.
Et ça, je pense que la religion a évidemment une part de responsabilité. Est-ce que l'apostasie est crédible selon vous? Alors moi, je fais un constat très simple quand je prends le cas de l'Iran, par exemple. Je prends un exemple assez intéressant. L'Iran, c'est le premier pays qui succombe aux expansions musulmanes historiquement. Et aujourd'hui, quand vous regardez certaines études sociologiques, on constate que les Iraniens affichent des niveaux de désaffiliation religieuse remarquablement élevés au regard des standards de la région. Et moi, je me dis très simplement que si un pays théocratique sanguinaire qui n'hésite pas à assassiner des femmes mal voilées, il existe dans ce pays-là des niveaux de sécularisation très élevés, eh bien je me dis qu'en Occident, compte tenu des espaces de liberté qui sont les nôtres, nous n'avons aucune excuse, et nous devons produire un discours beaucoup plus critique pour tenter d'affranchir les musulmans de leur religion.
Du guide qui a été publié récemment par la mosquée de Paris, du guide, on va dire, du musulman républicain.
Je pense que c'est évidemment de la poudre aux yeux. La mosquée de Paris est présidée, on le rappelle, par quelqu'un qui est incapable de qualifier l'Algérie de dictature, qui est incapable de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Donc il s'agit d'endormir les Européens. Quand vous écoutez certains responsables de la mosquée de Paris, ils vous disent que c'est un guide qui n'est absolument pas, qui ne s'adresse absolument pas aux sociétés musulmanes, qui n'ont absolument rien à se reprocher. Et donc il y a en effet une volonté de repli tactique dans les sociétés où les musulmans sont minoritaires, mais ça ne veut pas dire que la Grande Mosquée de Paris œuvre un islam républicain. Absolument.
Bruno Poncet, avant Barbara.
Ben moi j'ai bien fait de vous écouter, parce qu'au moins vous avez donné un peu de grain à mon moulin. Vous dites faut pas mettre les musulmans dans le même sac, sauf que juste avant vous expliquez que les terroristes sont musulmans, ou de dire qu'ils sont islamistes. Vous dites que islam et islamisme c'est la même chose dans votre livre.
Pardon, simplement vous faites pas de distinction entre islam et islamisme, ce qui est pourtant en général c'est ce qu'on fait. On dit attendez, là on parle pas d'islam, on parle des islamistes.
Je n'ai pas dit que tous les terroristes étaient musulmans. Je dis que
vous
le palmarès des organisations terroristes et les plus meurtrières est essentiellement.
Vous parlez juste musulmans et vous dites pas islamistes.
Parce que ces gens-là se réclament de l'islam, c'est un fait.
Oui, mais sauf que
c'est parce comme que les croisés sont réclamés du christianisme.
Mais c'est pas forcément parce que vous êtes musulman.
Les croisés, ils étaient chrétiens.
Je crois.
Là, vous avez aucune difficulté à le reconnaître.
Oui, mais en fait,
c'est bizarre, ça.
Non, mais c'est vous là. Moi, vous dites qu'on les met pas dans le même sac, mais après, vous dites islam et égalité.
Je constate une surreprésentation. Quand vous avez effectivement.
Surtout, c'est que votre livre. Moi, j'ai lu des livres qui ressemblent.
Micro.
C'est le livre de Houellebecq, c'est le livre de Zemmour. En fait, on est dans la même sphère. Mais moi, quand
est-ce que vous avez
là,
des arguments?
Non, mais moi, j'en ai un juste vite fait. Allez-y. En fait, là, vous êtes en train de nous expliquer tout à l'heure. Vous dites oui, c'est une religion qui a 1400 ans. En fait, si vous voulez, vous qui êtes historien et
je suis pas historien.
Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu tout. En fait, il y a 1400 ans. Si vous regardez nous, notre religion, il y a 600 ans. et la société dans laquelle on était il y a 600 ans. Est-ce que la femme avait plus de droits aujourd'hui que dans certains pays musulmans?
Tu lui as donné des arguments.
Bah oui, on est d'accord.
Je parle de ça dans ce...
Donc la religion n'a pas encore fait le travail que d'autres religions ont fait, c'est ce que vous dites.
Alors, premièrement, sur la condition des femmes en terre musulmane, si vous avez lu le livre, vous auriez peut-être vu ces témoignages d'observateurs musulmans qui arrivent en Europe chrétienne et qui sont scandalisés par la libéralité de la condition féminine au regard de leurs standards. Déjà au Moyen-Âge, vous avez des témoignages de musulmans qui observent les femmes des croisés et qui disent qu'est-ce que c'est que ces femmes qui parlent à des hommes qui parlent à des hommes qui ne sont pas leur épouse sans l'autorisation de ces derniers. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les standards en matière de conditions féminines ont toujours été beaucoup plus élevés en terre chrétienne qu'en terre islamique. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis du féminisme en terre chrétienne, mais non, au regard des standards islamiques, c'était beaucoup plus élevé, même si je concède que ce n'est pas non plus très compliqué de faire mieux en la matière.
Nous, ensuite, tuer les femmes
Je ne dis pas que l'islam aurait eu le monopole historique de la violence. Ce n'est pas ce que je dis. Aucune culture ne peut se targuer d'avoir été épargnée par la violence. La violence est constitutive de l'histoire de l'humanité. Simplement, force est de constater que certaines aires culturelles se sont montrées, on va dire, plus douées que d'autres pour embrasser ce que Norbert Elias a appelé le processus de civilisation. C'est-à-dire un processus au cours duquel on apprend à domestiquer nos passions.
Et donc la question...
Mais dans ce cas-là, répondez à la question suivante. Pourquoi aujourd'hui les sociétés musulmanes affichent-elles des niveaux de discrimination, de violence qui sont bien plus élevés que la moyenne mondiale? Ça m'intéresserait d'avoir une explication.
Non, mais quand on parle des sociétés musulmanes, on parle par exemple de l'Iran. On parle de l'Iran, on parle de l'Arabie Saoudite.
Je parle de 50 pays musulmans. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3% de musulmans seulement qui vivaient dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. Ce chiffre mérite une explication. Si on avait une autre qui est alternative, je prends.
Moi, par exemple, j'ai en tête un pays qui est musulman. Alors, qui est musulman en grande globalité, c'est par exemple le Sénégal. Ah. J'ai pas l'impression d'arriver au Sénégal des gens
là, ils sont
qui
en train de persécuter les homosexuels. Mais,
cher monsieur,
avec un président polygame.
Quand vous faites une analyse sociologique d'une communauté quelle qu'elle soit, vous vous intéressez toujours aux grandes régularités et aux grandes anomalies statistiques. Et donc, de la même manière que vous ne prétexterez pas la fortune de Kim Jong-un pour dire que la Corée du Nord est un pays prospère, eh bien, vous n'allez pas prétexter telle ou telle exception pour invalider un tableau d'ensemble qui est quand même assez consternant. Est-ce que oui ou non, le nombre de démocraties en terre d'islam est minoritaire ou majoritaire? Répondez à cette question. Et si le nombre de démocraties en terre d'islam est minoritaire, il faut donner une explication à cette anomalie.
L'anomalie, je pense, elle doit être un petit peu comme aujourd'hui dans d'autres pays sous dictature. En fait, l'anomalie, c'est qu'à partir du moment que vous opprimez votre peuple, peu importe votre régime politique ou régime religieux, vous êtes là-dedans. Par contre, moi, c'est un truc qui m'avait un peu heurté dans votre livre aussi, c'est que vous ne prenez pas en compte l'islam que moi, mes amis, les congénères français vivent, et ce n'est pas un islam qui veut remplacer la République, c'est un islam qui est intégré à la République, et aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sont intégrés à la République, qui n'ont à aucun moment donné envie de remplacer la République, et surtout pas de commettre des actes violents et au nom de leur religion. Donc je me dis, cet amalgame que vous faites d'un seul coup en les mettant tous dans le même sac, et après vous dites je ne les mets pas dans le même sac, en fait si.
Alors réponse de Fergan Azihari.
Quand vous avez plus d'un musulman sur deux en France qui considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population, pardon.
5%, votre chiffre, il n'est pas bon.
Plus de 50%, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres d'Hakim El-Karoui, que je salue parce que je sais qu'il m'aime bien. Donc, vous avez des enquêtes sociologiques qui sont menées en Europe depuis 30 ans, qui vous montrent que les musulmans, malheureusement, moi je le déplore, je ne m'en réjouis pas parce que je viens de là, que les musulmans sont plus sensibles que la moyenne à des préjugés sexistes, autoritaires, xénophobes, antisémites.
Même quand on vit dans des sociétés comme la société française, ouverte.
Exactement, mais c'est précisément le drame, effectivement, d'une population qui est malheureusement beaucoup plus sensible que les autres à des valeurs autoritaire et qui ne parvient pas toujours à tirer les bonnes conclusions de sa présence en Occident. Parce que s'il y a autant de musulmans en Occident, c'est bien parce que leur société d'origine n'a pas été capable de leur offrir un niveau de vie décent.
Et justement, je vous remercie d'avoir souligné aussi la différence entre des sociétés qui, hélas, étaient parties de sociétés avec une grande diversité religieuse et culturelle, le monde musulman à ses origines, pour arriver à cet assèchement religieux, puisqu'aujourd'hui, des minorités juives, il n'y en a quasiment plus dans le monde musulman, à part quelques-unes au Maroc. Et les chrétiens sont largement persécutés dans les pays musulmans. Et ce manque de diversité explique aussi, en partie, peut-être cet assèchement. Mais moi, surtout, je voudrais vous remercier aussi de rappeler l'histoire de l'esclavagisme du monde arabo-musulman, parce que c'est quelque chose qui a saigné l'Afrique et qui a aussi instauré un regard sur l'Afrique subsaharienne de la part des voyageurs arabes. Et puis c'est très bien que vous ayez évoqué les voyageurs arabes du Moyen-Âge qui viennent en Europe et qui constatent les libéralités. Nous avons, j'ai fait de l'histoire africaine et notamment j'ai lu des textes.
Court, hein, il reste
oui, mais
minute, hein.
Les textes des voyageurs arabes, notamment Ibn Khaldoun, mais d'autres, dans le monde d'Afrique subsaharienne, c'est un mépris et un racisme pour les populations africaines et qui ne trouvent leur salut que dans la conversion. Et c'est seulement par la conversion que les Africains noirs ont pu éviter l'esclavagisme. Donc aujourd'hui, comment vous expliquez qu'en France, on ne parle jamais de la part de l'esclavage arabo-musulman dans ce pays, alors qu'on passe notre temps, à juste titre, en tant qu'historienne, à parler de l'esclavagisme occidental?
Je pense qu'il y a une forme de condescendance qui est héritée du mythe rousseauiste du bon sauvage. C'est-à-dire qu'au nom d'une vision abâtardie du mythe du bon sauvage, on en est venu à traiter les musulmans avec une certaine condescendance, en partant du principe qu'il serait vain d'exiger des musulmans les mêmes standards que nous appliquons nous-mêmes. Donc j'y vois une forme de racisme, en réalité, qui est assez répandue. Il faut rappeler, en effet, qu'aucune culture n'a le monopole de l'esclavage. Toutes les cultures l'ont pratiqué. À ceci près que toutes les cultures n'ont pas été capables de critiquer cette institution. Le monde musulman n'a jamais produit de discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de la controverse de Valladolid. Il n'y a jamais eu de Condorcet. Il n'y a jamais eu de Victor Schœlcher. À tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales. Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres, tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui sont allés jusqu'à Zanzibar, qui ont fait pression sur l'Empire ottoman pour réduire l'ampleur des traites, et l'Empire ottoman n'a jamais été capable de déclarer l'esclavage illicite jusqu'à sa dissolution. Je constate que là où l'Europe a produit une brillante littérature sur ses propres crimes et ses propres péchés, le monde musulman peine à faire son autocritique. J'ai par exemple moi eu énormément de mal à identifier le moindre monument en état d'islam qui commémore l'abolition de l'esclavage, mais il faut dire que lorsque vous révérez un prétendu prophète qui pratique lui-même l'esclavage, c'est quand même compliqué de produire une critique de cette institution.
Fergan Aziari, l'islam contre la modernité, à vous de vous faire une idée, hein, c'est un pamphlet, hein, c'est aussi un livre qui est fait pour faire réagir.
Non, c'est sourcé.
Et c'est le cas, et c'est sourcé,
bien entendu.
Il y a
40 pages de notes. C'est historique.
On peut faire un pamphlet
c'est
et en dessous.
C'est
aux éditions.
C'est gentil, merci.
Merci Fergan Aziari.